Bonjour et bienvenue à tous dans la web radio du lycée Sainte-Marie-Lyon. C'est toujours Maxime, votre animateur, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter un micro-trottoir sur le thème de la fermeture des cinémas pendant 6 mois et demi, d'octobre à mai, suite aux mesures prises de confinement contre le Covid-19. Pour ce podcast, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Monsieur Marshall, professeur de mathématiques au lycée, cinéphile et en charge du ciné-club du lycée, Benjamin Boisson, en classe de terminale 5, cinéphile qui a pu sortir son premier court-métrage il y a peu, et Monsieur Bruna, professeur d'anglais dans un autre établissement, cinéphile également. Donc tout d'abord, Monsieur Marshall, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de la fermeture des cinémas pour une durée indéterminée à l'époque?
Après l'annonce, donc fin octobre, de la fermeture des cinémas, c'était juste après la fin du Festival Lumière où j'avais pu voir un certain nombre de films, dont des films très récents, en avant-première, le dernier film de Viggo Mortensen, Falling, et le dernier Winterberg aussi, Drunk. Donc j'étais un peu rassasié de cinéma. Et donc les cinémas ferment. Et là, on est en plein dans la nouvelle vague de cette épidémie et on pense plus tellement au cinéma, ça passe au deuxième plan, une période très spéciale. On est touché par cette épidémie et chacun dans les familles, on est touché par cela. On pense à se protéger et à protéger les personnes qui nous entourent avant de penser au cinéma. Et donc, au départ, il n'y a pas de manque qui se passe, et puis le temps passe, et puis les mois passent, et puis on a envie de retourner dans les salles, et ce manque va se faire de plus en plus sentir.
Et toi, Benjamin, comment as-tu réagi face à cette fermeture?
Oh bah, à cette époque-là, tout s'est écroulé en même temps et je pense que le pire vraiment, c'était la fermeture des cinémas. Moi, en plus, je venais de prendre l'habitude d'y aller vraiment fréquemment. Mon dernier film, c'était, je crois, c'était Adieu les cons avant que tout se ferme. Un film de Albert Dupontel qui a été beaucoup récompensé au César, donc je trouve que c'est incroyable ce film. Je le conseille, je pourrais en parler plus en détail, mais c'est pas la question. Allez le voir vraiment, si vous n'êtes pas encore allé, là, ça vient de rouvrir. Il est ressorti parce qu'il n'avait pas fait assez de chiffre d'affaires, sûrement il n'était pas resté assez longtemps en salle. Donc vraiment, la fermeture des cinémas, c'était dramatique parce que regarder un film au cinéma, c'est fait pour, je veux dire, les grandes salles comme ça, sur un grand écran, quand les réalisateurs, les producteurs, tous les ingénieurs sont, tout le monde, ils font en sorte que ça soit sur un grand écran, parce qu'il joue sur la lumière, il joue sur tellement de choses que vraiment c'est très important les salles de cinéma.
Et vous, Monsieur Bruna, quelles ont été vos réactions face à l'annonce de la fermeture des cinémas?
J'étais extrêmement déçu par la fermeture des cinémas, vu que j'y vais à peu près entre une à deux fois par semaine, et que c'est donc une des activités culturelles les plus importantes à mes yeux.
Et pensez-vous que la fermeture des cinémas pendant 6 mois et demi aura un lourd impact sur la production des films?
Alors sur l'industrie du cinéma, je pense que l'impact a été important. Alors j'ai du mal à le mesurer dans ma position, mais je connais des gens qui travaillent surtout dans la diffusion du film dans les salles. Et là, c'était assez terrible. Mais il n'y avait plus rien, il ne se passait plus rien, et on ne savait pas bien comment cela pourrait redémarrer. Alors, pour la production des films, je pense que les plateformes ont pris une part de marché importante, et je pense qu'il y a vraiment la concurrence déloyale. face à la diffusion en salle. Parce que les salles sont mises à l'arrêt, donc on ne peut plus voir les films dans les salles. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise les plateformes. Et ces plateformes sont les seules qui ont tiré leur épingle du jeu pendant cette période. Et il faudra que les salles rattrapent ce retard. Et ce sera sûrement assez difficile.
Oh, je pense pas que les cinémas qui ferment pendant longtemps, ça a un impact, parce qu'à côté, en parallèle, il y a toujours énormément de productions de films. Et quand on a une passion pour le cinéma, c'est pas parce que le film va pas sortir tout de suite. Surtout qu'en 6 mois, parfois la production de films, c'est beaucoup plus long. Et donc se dire que là, les cinémas vont pas ouvrir pendant 6 mois, ça impacte les gens qui viennent de terminer leur film et pas du tout les gens qui sont en train de tourner. Donc après, la pandémie mondiale a fait que les tournages ont dû s'interrompre à un petit moment, et ça a été un problème. Mais sinon, la fermeture des cinémas n'a pas du tout d'impact, à mon avis, sur la production des films.
Oui, assez. Parce qu'il y a quand même pas mal de tournages qui ont dû être interrompus. Que ce soit déjà des tournages qui ont été interrompus pendant le premier confinement, d'autres qui ont été interrompus pendant le deuxième, enfin, et le troisième confinement. Voilà, c'est, enfin, il y a des films que l'on va pas voir qui auraient dû sortir, par exemple cette année, que l'on verra plus tard parce que on a repris les tournages récemment, qui sont en train d'être montés. Voilà, enfin, c'est énormément compliqué. Surtout que ça soit, enfin, compliqué, enfin, pour les artistes, mais aussi pour les cinémas, surtout les cinémas indépendants qui risquent de, comment dire, de très très mal vivre ça et qui pourraient sûrement fermer, malheureusement.
Et malgré cette fermeture, est-ce que vous avez gardé un lien avec le cinéma? Et si oui, lequel?
Alors, j'ai bien sûr gardé, tout au long de ce confinement, j'ai gardé contact avec le cinéma. Et ce lien était principalement par le fait que j'ai regardé des films, j'ai vu des films. J'ai profité de toutes les propositions gratuites et souvent originales que plusieurs plateformes offraient. Ainsi, j'ai découvert de nombreux courts-métrages que je n'avais pas eu l'occasion de voir. En particulier, j'ai profité de la plateforme de la Cinémathèque française pour voir les premiers films de Jacques Rosier ou les films de Raoul Ruiz. J'ai aussi profité de cette période pour voir des séries, peut-être plus que d'habitude, parce que les séries se prêtent bien à l'esthétique de la télévision. J'ai pu voir des films et j'ai gardé ce contact pendant cette fermeture.
Oh bien sûr que j'ai gardé un lien avec le cinéma. Malheureusement, forcément, j'ai pas pu aller en salle, hein, elles étaient toutes fermées. J'ai pu y retourner hier d'ailleurs, et pour aller voir un film Drunk, qui a été pas mal récompensé aux Oscars. Et ça m'a fait vraiment énormément de bien, mais sinon quand même en parallèle j'ai quand même gardé un lien avec le cinéma, un gros lien, c'est-à-dire que déjà de prime abord je regardais beaucoup de films, que ce soit sur les plateformes comme Netflix, comme Prime Video, mais surtout que j'ai gardé encore un autre lien, c'est-à-dire que j'ai fait moi-même un tournage, j'ai réalisé un court-métrage, donc si vous voulez le voir c'est sur le thème Enfin. Et donc ça ne m'a pas empêché, mais quand même les salles sont vraiment très importantes. Regarder un film dans une salle de cinéma, c'est quand même un plaisir. Toute l'équipe technique a travaillé pour qu'il sorte en salle, mais quand même j'ai pu garder un lien.
Oui, heureusement, j'ai toujours eu l'habitude d'acheter des DVD, des Blu-ray, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi, je regardais des films que j'avais pas pu voir au cinéma auparavant, donc je les commandais, ou alors j'ai revu des films que j'avais pas vus depuis extrêmement longtemps. J'ai la chance d'avoir une médiathèque à côté de chez moi, donc j'ai pu louer des films aussi. Et il y avait aussi le lien Netflix et aussi OCS. Donc il fallait pour moi, culturellement parlant, que je garde ce lien avec le cinéma, lien qui est extrêmement, extrêmement vital pour moi.
Et enfin, est-ce que vous pensez que les films qui sont sortis uniquement sur des plateformes de streaming payantes sont l'avenir du cinéma ? Par exemple, le dessin animé Soul, qui est sorti uniquement sur Disney+, ou le film Madame Claude, qui est sorti uniquement sur Netflix ?
Alors, sur les films qui sont sortis pendant cette période particulière de la fermeture des cinémas, ou les films qui se sont faits pendant cette période, avant de parler des plateformes payantes, je voudrais signaler aussi la grande originalité des créations qui ont pu avoir lieu pendant cette période, que ce soit dans ces plateformes payantes, hein, je pense au film de Sam Levinson, Malcolm and Mary, que je n'ai pas encore vu, mais qui serait sûrement intéressant. Mais il y a également des films qui vont sortir, je pense, au cinéma, plutôt comme le film de MacLaur, Jokari, qui a été tourné dans la Creuse pendant le confinement. Donc il y a eu des créations comme cela qui ont donné qui se sont faits parce que, à cause de ce confinement, ou grâce à ce confinement, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors, sur mon avis sur l'avenir du cinéma par rapport aux plateformes payantes, je crois que il faut les plateformes payantes ne peuvent pas être l'avenir du cinéma. Il faut retourner au cinéma. Il faut se rendre compte qu'en France, on a un nombre de salles qui est considérable. L'un des pays d'Europe où ce nombre de salles est le plus important. Et il faut aller au cinéma pour pouvoir maintenir ces salles qui sont le meilleur moyen de diffusion de cet art. Et je ne pense pas du tout que l'avenir du cinéma passe par des films qu'on regarderait sur les petits écrans des smartphones tout en voyageant ou en se promenant dans la rue. Ce n'est pas possible de découvrir une œuvre d'art uniquement par ce moyen-là. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment aller au cinéma, redonner leur chance aux salles.
À mon avis, non. À mon avis, l'avenir du cinéma va rester les vraies salles de cinéma. Comme j'ai dit précédemment, toute l'équipe technique, le réalisateur, ils font tous en sorte, quand ils travaillent sur la lumière, quand ils travaillent sur un tournage, on ne se rend pas compte quand on regarde juste un film. Mais quand on assiste à un tournage ou qu'on écoute des interviews de grands réalisateurs, ils nous disent tous que les films sont faits pour être diffusés en salle. Et le problème de Netflix, de Disney+, des plateformes payantes comme ça, ça permet pas de regarder un film en salle, un film sur un grand écran de cinéma. Ça permet de regarder ça soit sur un téléphone, soit, ou pour les plus chanceux, sur une grande télé. Mais c'est pas l'équivalent d'une grande salle de cinéma.
J'espère pas, mais vraiment pas. Je suis vraiment pour l'expérience ciné, aller au cinéma seul ou avec des amis. Pouvoir partager une histoire pendant 1h30, 2h, regarder les mêmes événements, les mêmes actions. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça le cinéma. Ce n'est pas regarder tout seul devant son petit écran un film. Ils ont fait le choix économique, que ce soit pour Pixar, de sortir par exemple Soul. Et pareil pour Wonder Woman en France, le film n'est sorti qu'en ligne. C'était un choix plus économique artistique. Après, c'est vrai que par exemple, Tenet est sorti au cinéma et n'a pas eu le succès économique escompté parce que les gens ne sont pas allés au cinéma à la fin de l'été dernier. D'accord, Mais j'estime vraiment, vraiment que le cinéma, enfin, les films sont faits vraiment pour être vus sur grand écran. Et que, par exemple, que des films, des vieux films comme Titanic, ou Le Seigneur des Anneaux, ou d'autres films, d'autres grands films, doivent être vus avant tout sur un grand écran.
Eh bien, merci messieurs d'avoir participé à notre micro-trottoir. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion du cinéma. Et nous ne manquerons pas d'aller voir les films que vous nous avez conseillés durant vos interviews. Et maintenant, voici le point information. On va commencer dans le monde, et plus particulièrement en Europe, où la Suisse vient d'annoncer qu'elle arrêterait ses négociations sur ses relations avec l'Union européenne, négociations qui durent maintenant depuis plusieurs années et dont nous n'avons toujours aucune issue. La Suisse a donc annoncé l'arrêt de ces négociations. On reste en Europe à présent avec l'Union européenne, l'UE, qui prépare des sanctions fortes contre la Biélorussie et son président Alexandre Loukachenko. Suite à l'affaire de l'avion Ryanair détourné il y a quelques jours par la Biélorussie pour arrêter un de ses opposants politiques. En Inde à présent, hein, le cyclone Yaas qui commence à balayer les côtes ouest du pays sans pour l'instant avoir fait de blessés graves. Enfin en France maintenant, le nombre de fumeurs a annoncé Santé publique France a arrêté de baisser depuis 2020. Santé publique France explique ces chiffres notamment à cause du confinement et du Covid, situation qui serait plus propice au stress et à l'angoisse des personnes et donc à fumer. Pour le chapitre culture de ce point information, on retiendra la nouvelle directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes. Nommée ce jour directrice du musée du Louvre, elle quitte le musée d'Orsay dont elle était directrice pour aller s'installer sous la pyramide de Verre. On va parler musique à présent avec Barbara Pravi, représentante de la France au concours de l'Eurovision qui s'est tenu ce samedi. Elle arrive deuxième avec sa chanson Voilà, sans ch chanson pardon, qui n'est pas sans rappeler celle d'Édith Piaf ou encore de Charles Aznavour. Ce concours de l'Eurovision, je le rappelle, a été remporté par un groupe italien cette année. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Podcast qui est malheureusement déjà le dernier de cette année scolaire. En effet, avec la préparation du baccalauréat et les vacances d'été, nous n'aurons pas le temps, malheureusement, d'en préparer un prochain. Je ne pourrai malheureusement pas en faire d'autres. J'ai été très heureux d'animer cette web radio depuis janvier. Merci à vous d'avoir été si fidèles et de nous avoir écoutés à chaque fois qu'un podcast sortait. Tous les retours que j'ai pu avoir de cette web radio étaient très positifs pour un projet novateur et assez innovant, je dois le dire. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été à notre écoute. Je remercie également Madame Bonnefoy. Vraiment, merci beaucoup Madame pour nous avoir permis de réaliser ce projet. Merci d'en avoir eu l'idée. Et puis merci de nous avoir vraiment aidé à le mettre en place. C'était un véritable défi, on l'a réussi. Donc merci à vous pour toutes vos idées, puis pour toute la logistique du montage, des choses comme ça. Je tenais aussi à remercier nos intervenants pour tous ces podcasts. Donc les toutes premières, Ambre et Juliette, qui ont animé le tout premier débat et le tout premier podcast, un grand merci à vous les filles d'avoir lancé cette web radio. Merci à Madame Marin-Decoux, à Augustin et à Chantal pour le premier micro-trottoir de cette web radio qui était exceptionnelle. Merci infiniment à Mado et Céleste, les premières chroniqueuses de cette web radio avec leur podcast inoubliable sur les mots en voie de disparition. Et merci encore à Monsieur Marshall, à Monsieur Bruna et à Benjamin pour ce dernier podcast, ce dernier micro-trottoir. C'était un véritable plaisir que de préparer ces podcasts pour vous et j'espère que vous trouverez toujours votre bonheur avec les podcasts qui paraîtront l'année prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.